Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Samedi Fiction. Ce soir, la suite de Carnet de galère d'Ayat Fayez, dont vous avez pu écouter la première partie samedi dernier, enregistrée cette fois-ci en direct du studio 114 de la Maison de la Radio et de la Musique, une réalisation de Laurence Courtois.
Carnet de galère, Ayat Fayez. Deuxième carnet. Réalisation Laurence Courtois. À Madame de la Maison, bibliothécaire.
Arrivé en France sous le statut d'étudiant étranger, le jeune Afghan Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli devient, après ses études universitaires à Amiens puis Paris, traducteur littéraire. Il se marie avec une condisciple de faculté, une Hongroise nommée Etide. Ils finissent par vivre à Vienne, en Autriche, où Etide trouve un travail, tandis que Kabouli traduit des textes littéraires du français vers le dari. Cette petite vie d'intellectuel, tourmentée par les questions de permis de séjour pour Kabouli, s'arrête le jour où il apprend qu'Etide le trahit depuis des années avec un autre homme. S'ensuit une descente aux enfers. Dès que le divorce est acté, son permis de séjour, corrélé à son mariage, s'en trouve annulé. Etide le somme de quitter l'appartement dont le bail est à son nom. Ainsi, Kabouli se retrouve-t-il petit à petit dans la rue, à Vienne, sans domicile ni papier.
Tu marches, Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli. Tu marches et marches et marches, traducteur littéraire. Marcher pour échapper aux vérités, pour ne pas céder, pour se convaincre d'une soi-disant maîtrise de l'espace et du temps. 2. Aller à travers Vienne, la ville, ta ville. Mais tu ne la reconnais plus. Et pour cause, tu ne la vois plus. Tu es perdu en toi-même. 3. Le monde, irrévocable, se condense, devient solide, implacable et sans rémission. Ceux qui m'avaient hébergé ont disparu de mon entourage comme des étoiles. Il s'agissait d'abord d'une lointaine amie de mes parents, puis de quelques connaissances de celle-ci, puis de connaissances de ses connaissances. Ce n'était pas l'acte de me congédier de leur appartement qui était le plus difficile, mais le fait qu'ils y mettaient les formes, que je voyais qu'ils avaient préparé leur demande, soupesé chaque mot, vérifié la crédibilité de l'excuse, pour que le départ, mon départ, se fasse de la manière la plus naturelle, la plus fluide, la plus soignée. 4. Dans les premiers temps, lorsque j'étais éconduit, mon esprit décuplait d'énergie pour trouver une solution. J'appelais mes parents, des amis de leurs amis qui m'apparaissaient dans le souvenir par un indice improbable, potentiellement plus aimable que d'autres, plus enclin à m'accorder l'hospitalité. J'allais quérir du côté des associations, à défaut. Je me mettais en quatre pour trouver un toit pour la nuit. Désormais, la détermination, ou le courage, comme on veut, s'est éteinte. Je sors du café Jelinek bien avant la fermeture de 22h. La priorité est de trouver un endroit sûr ou dormir dans la rue. 5. Si n'avoir pas de carte de séjour, être sans papier, me maintient dans un état de vigilance passive, ce qui éperonne continuellement ma conscience, ce qui jour et nuit me perturbe, c'est être dépourvu de toi. 6. Emballé dans un t-shirt, les recueils de poèmes qu'il transporte avec lui font office d'oreiller pour dormir. Mais il est loin de rêver de poèmes. entrecoupé au centuple, le sommeil traverse tout autant la peur semi-consciente que les bruits de la rue et les cauchemars. 7. Suis-je encore un traducteur littéraire? J'ai perdu toute ma concentration. Je n'ai plus de patience pour rester devant un texte. Avec quelle force le faisais-je autrefois? 8. Il ne parlemente plus avec ses parents au téléphone. Il leur annonce qu'il a désormais un logement, un travail, une nouvelle amie, que tout est rentré dans l'ordre par un coup de baguette féerique. Il le croit sur parole, et cela le désespère d'autant plus. 9. Au café Jelinek, mon temps se consume devant Google Maps. Le plan du centre-ville de Vienne défile sur l'écran d'ordinateur et je corrobore les rues avec l'image que j'ai d'elle pour juger l'emplacement. Quand le quartier ne me dit rien, que Google Street ne m'aide pas non plus, je sors du café pour visiter le secteur, avec l'espoir persistant de tomber sur une rue dans laquelle je pourrais m'installer avec conviction. Mais au final, je reviens toujours au même endroit, dans la même zone. 10. Vienne m'apparaît à travers le prisme d'écueils inédits à franchir, d'obstacles inattendus qu'il faut contourner, de choses bénignes qui, avec le glissement de mon statut, se sont transformées en épreuves. 11. Ainsi de mes apparitions au café Jelinek, depuis que je vis dehors. J'entre et me dirige tout de suite dans l'encoignure de la salle, renonçant à ma table habituelle près du comptoir. Je tente d'indisposer le moins possible les gens à cause de l'odeur que je dégage et dont j'ai conscience par le souvenir des clochards que j'évitais jadis dans les transports. 12. Mais quand même, il y eut ce jour où le serveur me dit, alors que je m'apprêtais à régler ma consommation, « Le client qui était à la table d'en face a payé pour vous. » Et je me souvins d'un homme d'un certain âge qui ressemblait un peu à Freud, vêtu d'un costume cravate qu'agrémentait la chaîne d'une montre de gousset, tenant du manche de bois le journal qu'il lisait. Et ce soir-là, j'eus une infinie gratitude envers les Viennois. 13. Il installe son sac de couchage sous le porche d'une boutique située en haut de la Maria-Hilfer-Straße, la rue parallèle à celle où il vivait, est-idée lui. Il se dit secrètement qu'en cas de problème, il sera somme toute dans le quartier où il a vécu des années durant. Comme si le souvenir du chez-soi pouvait prémunir du danger, braver les périls, délivrer d'un sortilège. 14. C'est à cette période qu'a lieu l'incident au café Jelinek. Assis à une des tables placées dans le coin de la salle, sans voisin, un soir où exceptionnellement les clients sont peu nombreux, tu parcours sur Google Maps les quartiers viennois quand le serveur se présente pour prendre ta commande. Tu n'as pas le temps de lui adresser la parole car il te devance. La direction ne souhaite plus vous accueillir. Veuillez nous en excuser. 15. Tu ranges gentiment tes affaires. Tu laisses quelques pièces sur la table et tu te lèves. Tu avances vers la sortie. Il y a quelque chose qui relève de l'automatisme dans tes gestes. Comme si, sous le coup du choc, l'être humain s'était mué en robot. 16. Il y a une vitre entre le monde et moi. 17. Mais Goulam, cette vitre n'a-t-elle pas toujours existé pour toi? N'as-tu jamais vu la vie qu'à travers les mots, par le prisme d'histoire? 18. La littérature, comme elle t'a protégé du monde extérieur et t'a rendu en même temps incapable de l'affronter. 19. Et ainsi tu marches, Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli. Tu marches et marches et marches, ton baluchon à l'épaule, comme un escargot. Tu portes ta maison sur toi et tu finis par te retrouver en deçà de la Maria-Hilfer-Straße, sur la Heldenplatz, que la somptueuse Bibliothèque Nationale d'Autriche ne parvient pas à protéger du vent. Et instinctivement, tu te diriges vers l'un des renfoncements qui crénèlent la base de l'édifice. Vaste est la Heldenplatz. Et de loin, Difficile de discerner les détails. Il te faut avancer pour découvrir les clochards informes qui somnolent, chacun dans un recoin. De cette lignée, jamais je ne serai. Tu t'en fais le serment. 20. Et pourtant, tu poses tes affaires dans le dernier enfoncement disponible, certes lumineux de soleil, mais plus proche des guêpes qui butinent des fleurs. Quel plaisir de sentir la lumière chaude se poser sur ton visage l'après-midi, et loin des gens qui plus est. Mais à tout avantage son inconvénient, tu le constates lorsque les rayons du soleil le lendemain te réveillent à l'aube, en même temps que le bourdonnement des guêpes. Alors tu te lèves, et pour te débarrasser du froid que la nuit a déposé sur toi, tu recommences à marcher à travers la ville. 21. Il fut jadis un traducteur littéraire. Un traducteur littéraire prometteur. Qu'es-tu devenu, Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli ? 22. L'argent qu'il me reste à la banque, je le dépense avec parcimonie. Ils font, nonobstant. Lentement, continuement, immanquablement, d'adverbe de manière en adverbe de manière. 23. Un jour, une clocharde qui ressemble à s'y méprendre à une sorcière vient au-devant de moi, ivre, des bagues sur tous les doigts et un cou chargé de colliers. Tandis qu'elle grommelle des invectives dans un mélange incertain de langues, un bourdon s'approche dangereusement de ses yeux. Elle le chope de la main et l'écrabouille en refermant le poing, sans arrêter de pester. 24. Le périmètre des déplacements de Kabouli s'amenuise depuis qu'il dort à l'extérieur de la Bibliothèque nationale. Il tourne autour du bâtiment, de près et de loin. Et un jour, en marchant, il se souvient, Eureka, qu'il a la carte de cette bibliothèque qu'il avait fréquentée quelquefois. Il rebrousse chemin. D'où tire-t-il cet inédit petit courage qui le pousse vers l'entrée du bâtiment, lui qui n'ose rien entreprendre du moment qu'il risque d'interagir avec un tiers ? 25. Tu te frais un chemin entre les fraîches étudiantes qui reculent sur ton passage, et tu atteins les casiers où ranger ton baluchon. Il est trop volumineux pour entrer dans l'un d'eux. Tu te résignes à le laisser au-dessus de l'armoire à casier, à la portée de tous. 26. L'espace informatique qui jouxte l'entrée de la Bibliothèque nationale est occupé par plusieurs clochards. Et cela te donne tout de suite une incroyable confiance en toi. Assis de biais ou face aux ordinateurs, certains marmonnent quand d'autres fixent le vide en silence. Tu avances vers eux et t'installes sur une chaise de bois. Du plaisir de s'asseoir sur une bonne chaise et de se délecter à admirer les étudiantes qui remuent, des livres à la main, de l'autre côté du couloir. 27. Sur les pierres de taille qui forment son emplacement sur la Heldenplatz, chaque jour, il grave un mot du poème « Le front aux vitres » d'Éluard, traduit en Dari, dont il a modifié le dernier vers. Le front aux vitres, comme font les veilleurs de chagrin, ciel dont j'ai dépassé la nuit, pleine toute petite dans mes mains ouvertes, dans leur double horizon inerte, indifférent. Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin. Je te cherche par-delà l'attente, par-delà moi-même, terre, pays, vérité. 28. Le jour à l'intérieur de la Bibliothèque nationale, la nuit à l'intérieur. 29. Jusqu'à cette fin de journée où, au sortir de la bibliothèque, le baluchon à l'épaule, tu découvres la sorcière dans ton emplacement. Elle a pris ses quartiers. « It's my place !» déclares-tu. Comme elle ne réagit pas, tu élèves la voix et ton intonation devient brusquement ascendante. Elle te répond dans une langue étrangère, sans se démonter. Autour d'elle, sur les pierres, Tu aperçois le poème d'Éluard que tu as gravé en Dari. Et tu as le sentiment que cette sorcière te dépouille de la seule chose qui te soutenait jusqu'ici, ta langue dans la poésie. C'est chez moi ici, lui assènes-tu en avançant vers elle. Elle se lève sans se démonter, te pointe du doigt et te mitraille d'injures avec une violence inouïe. L'éclat de ses bagues gicle sur tes yeux et tu vois Étide en elle. Un homme au crâne rasé accourt vers vous. Sont ses bras trapus, corrompus par tant de tatouages, ses dents d'or funestes ou la bave qui coule de sa bouche qui lui donne un air immanquable de bulldog? Pourquoi tu l'embêtes? Répète-t-il en allemand en te poussant par à coup. C'est ma place? Parviens-tu à dire. Pourquoi tu embêtes ma chérie? Hein? Pourquoi tu embêtes ma chérie? S'égosille-t-il en s'excitant. Tu sens qu'il va te mettre un coup de poing dans le visage. Une insulte fuse de la part de la sorcière, tu te tournes vers elle, juste le temps de voir son poing bagué qui te défigure. Noir. Des sirènes retentissent au loin. 2. Herr? Hallo? Können Sie mich hören? Can you hear me? 3. Dès que tu acquiesces d'un léger signe de la tête, une terrible douleur crispe ta mâchoire et le goût du métal dans la bouche. 4. Der Krankenwagen kommt. Sprechen Sie Deutsch? Français? L'ambulance arrive, monsieur. 5. Les sirènes, comme des vagues, se rapprochent des différents points de la ville. Il en est le destinataire. Une telle effervescence pour sa personne, cela l'étonne et l'émeut. 6. Il ne faut pas vous endormir. 7. Une voiture de la Polizei surgit. Au lieu de craindre le danger imminent à cause de sa situation de sans-papiers, il est soulagé, tout à fait résigné. L'idée de la fin de ses pérégrinations en terre européenne l'apaise. Même la possibilité d'une expulsion vers l'Afghanistan le satisferait. Il est juste épuisé pour continuer. Voilà la vérité. 8. Mais lorsque les forces de l'ordre t'interrogent sur ton nom et ta nationalité, tu dis « France » et ils passent outre. Autre chose les intéresse, et c'est le passant autrichien qui te parlait en français et te maintenait éveillé qui fait office de traducteur. La police demande ce qui s'est passé. Tout te revient en mémoire. Pouvez-vous décrire les agresseurs? 9. L'omniprésence du blanc dans l'espace de l'hôpital déteint sur le temps et le dissipe. 8 heures ou midi ou 16 heures n'ont plus de sens. Ne reste plus que la durée qui est éternelle. 10. Mon visage, celui d'un monstre. Les nuits, des tunnels de douleur sans fin. Kabouli, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. 11. Je reçois une visite. Quand l'homme d'une quarantaine d'années entre, portant une veste et un pantalon chic et décontracté, chaussé de mocassins qu'on ne se procure pas dans n'importe quelle boutique, je ne vois pas bien qui c'est. C'est la voix qui est familière. Bonjour. Comment allez-vous? Demande-t-il. Son accent le découvre. C'est la personne qui, en attendant les secours, m'avait aidé lorsque je reprenais conscience après l'agression de la sorcière. Que disent les médecins ? Nous attendons les résultats des différents examens. Bien ! Je souhaitais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ce jour-là. Voici mon numéro, dit-il en me présentant une carte de visite. Je m'appelle Joseph. Joseph, précise-t-il. Ghulam Muhammad Abdul Hassan. Vous pouvez m'appeler Ghulam. 12. Surprenant. Il n'a aucune honte à décliner son identité devant cet homme. Lui qui a un long contentieux avec lui-même. Une forme d'arrogance s'entend dans son intonation, alors qu'il ne fait que décliner son identité. La honte de soi est momentanément différée. Elle fait le guet, prête à sauter sur lui. De quel pays êtes-vous originaire ? Des perles de sueur apparaissent sur les tempes de Kaboul. Afghanistan. Waouh ! Ma femme et moi sommes fascinés par le Moyen-Orient. 13. Les résultats tombent. Aucune intervention chirurgicale ne sera programmée. Il en prend acte, quand il aurait pu s'en réjouir. 14. Deux policiers arrivent en civil le lendemain. Ils ont retrouvé mon baluchon, mon téléphone et le restant de mes affaires. 15. Sur l'écran portatif qu'allume l'un d'eux, s'étalent des photos de personnages interlopes, des suspects à la physionomie dure, différents et en même temps semblables. Un cou triangulaire qui soutient une tête carrée ou cabossée, d'où fuse un regard métallique, sournois ou défiant. Des tatouages effarants sur le front ou le visage, et dans les yeux, souvent l'opacité de celui qui n'a rien à perdre. Je reconnais tout de suite le suspect par ses dents d'or. Puis la sorcière sur la photo suivante. Ce sont eux. 16. Mes parents ont appelé des dizaines de fois depuis que je suis à l'hôpital. Le fil des messages qu'ils ont laissés dévoile une courbe qui va de l'appréhension à l'affolement. 17. Je leur explique par écrit que j'ai eu un problème avec mon téléphone, que je suis très occupé, mais que tout va pour le mieux, je les appellerai dans les prochaines semaines. Ma mère réplique aussitôt en me morigénant pour mon silence, puis elle vient aux nouvelles de ma petite amie, dont elle ne connaît toujours pas, écrit-elle le prénom. Je compose tout de go Marie-France et je leur dis à bientôt. 18. Passe le bonjour à Marie-France. 19. C'est très... Est-ce que ce sont les tiens ? Est-ce Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli devant toi ? Tu t'aperçois soudain que cette tête cabossée pourrait intégrer la collection des visages de voyous que les policiers t'avaient présentés l'autre jour comme de potentiels suspects. Tu comprends que la sorcière aux bagues maléfiques t'a transmis par ses coups de poing une tare inattendue, celle de vous confondre dans une même caste. 20. À ta surprise, Joseph, l'Autrichien, te rend à nouveau visite. Il a apporté un petit paquet de gâteaux. Tu es moins sur tes gardes que la première fois. Tu apprends bientôt que c'est un architecte viennois, qu'il a avec sa femme un cabinet d'architecture dans le 7e arrondissement, en face du café Meubel que tu fréquentais parfois. En entendant que tu es traducteur littéraire, il s'exclame d'admiration. « Pour quand est prévue votre sortie d'hôpital ?»«
La semaine prochaine. »
« Quelqu'un passera vous prendre ?»«
Non. » »«
Ce sera quel jour ?»«
Samedi. » »«
Alors, nous viendrons vous chercher, Anna et moi, si vous êtes d'accord. »«
C'est gentil, mais ça va aller, je prendrai un taxi. »
Apparaît alors une femme vive et souriante. Au regard qu'elle échange avec Joseph, tu saisis que c'est sa compagne, Anna. Une blonde chic qui doit avoir à peine la quarantaine, comme Joseph. Et tout de suite, tu te dis qu'ils vont merveilleusement ensemble. Le même style et un éclat semblable, pur, blond, bleu et blanc. Et tu te demandes si ce ne sont pas là les couleurs canoniques de la beauté. 21. Joseph se tourne vers Anna.
Ghulam ne veut pas qu'on vienne le chercher samedi prochain, pour sa sortie de l'hôpital.
Warum?
C'est gentil, dis-tu en déclinant d'un geste. La femme de Joseph persiste dans leur idée, d'une voix fragile, avec le même accent que son mari.
On veut venir vous chercher.
Ça ira très bien, je ne vais pas vous déranger. Mais non, réplique-t-elle, heureuse, comme si tu venais d'accepter. On sera content.
Joseph m'a beaucoup parlé de vous. Vous pourrez passer quelques jours chez nous avant de rentrer dans votre appartement.
Non, c'est très aimable à vous, mais j'irai chez moi tout de suite.
On insiste, dit Anna. Vous venez passer quelques jours chez nous.
Tu apprendras plus tard que la police, dans ses investigations, a interrogé plusieurs fois Joseph. Et celui-ci, en prenant connaissance des détails de l'altercation que tu as eue avec la sorcière, a appris que tu vivais dans la rue. 22. À ma grande surprise, je connais cet immeuble. Combien de fois me suis-je arrêté devant, en attendant le bus 57A que je prenais pour rejoindre la maison au temps où je vivais avec Étide. Je l'observais, et l'habitude ne me l'avait pas rendu invisible. Je me plaisais à imaginer l'intérieur des appartements, que j'avais surestimés, et leurs propriétaires que j'imaginais âgés et nobles. 23. Je sais à quoi m'attendre en allant vers la fenêtre de la chambre qu'on vient de me proposer. Toute cette ville m'appartient soudain de cette hauteur, depuis cette chambre, dans cet appartement. Ainsi, du Burggarten, au pied de l'immeuble, de la Stephansdom, un peu plus loin, et de la Bibliothèque Nationale, là-bas, vers la gauche. Et paradoxalement, c'est de cette hauteur, devant la fenêtre, qu'il se rend compte de l'âpreté de la vie qu'il a eue durant cette dernière année. Il entre dans la salle de bain. Il éclabousse de l'eau sur son visage. C'est comme si, traducteur littéraire, je l'avais été dans une autre vie. Comme si. Il faut que je souligne cette locution. Que je ne laisse pas la vérité atteindre directement la phrase. 25. Le visage, tel un arbre ayant traversé l'hiver, renaît, s'ouvre, reprend forme, et avec mon humeur. 26. Un soir de week-end, assis autour de la table de cuisine, vous buvez du vin hongrois sous la lampe jaune, et tu t'épanches un peu devant eux. Tu as envie de dire à Anna et Joseph qui tu es, d'où tu viens. Ils sont dignes d'être tes amis. Ce que tu relates les intéresse. Ils te posent des questions sur ta vie, sur l'Afghanistan, et tu leur racontes. Tu ne finis pas de leur raconter. Tu leur livres une partie de ton existence, tes histoires. Et vous discutez ainsi jusque tard dans la nuit, bouleversés, mêlés dans une légère ivresse. 27. Et encore le tact légendaire des Viennois. Un matin, je trouve une dizaine de vêtements lavés, repassés et pliés sur le canapé du salon, avec un mot en français signé de Joseph. « Prenez ces vêtements, cher Ghulam, ils sont pour vous. Dans votre état, vous ne devez pas vous fatiguer. Pas besoin d'aller chez vous. Bis bald, Joseph. » 28. Avec le temps, tacitement, des habitudes s'installent. Des usages s'établissent. Tu t'occupes de nettoyer l'appartement pendant leur absence et eux se chargent de faire les achats. Anna cuisine merveilleusement. Et chaque samedi soir, vous avez droit au plat d'un pays différent. Un jour, tu leur proposes de préparer un plat afghan. Ils en sont absolument ravis. 29. Je ne connaissais pas suffisamment les merveilleux cafés viennois aux alentours de l'Opéra National. Je les fréquente depuis que je séjourne chez Joseph et Anna, en particulier le Havelka, sombre et patiné, absolument magique. Je m'installe à une petite table et je lis « Allégeance » de René Char. Et tout de suite, je demande au serveur un stylo et du papier. Et tout de suite, je retrouve ce plaisir précis, tout à fait particulier, existentiel, celui de franchir la frontière,
de transporter un texte d'une langue à une autre. 30. Il traduit un autre poème de Char, et un autre, et un autre. Toute la matinée au café, il traduit du Char. Et lorsqu'il sort du Havelka, il lui paraît, dans cette fatigue exquise et cet abandon formidable qui sont, se dit-il, l'apanage de la création, qu'en cœur, les éléments du monde acquiescent à sa présence. Et c'est comme si, en marchant dans cette Vienne qui reprenait forme, qui redevenait sienne, il faisait allégeance à sa vie de traducteur littéraire étranger, à sa maudite, merveilleuse vie de traducteur littéraire étranger, à tous ces exils qui ont marqué son visage d'étranger. Et une ville naît, meurt et renaît en moi. 2. Lors d'un dîner du samedi, je suis amené à parler à mes hôtes d'Adonis, le poète syrien, de sa réception de l'œuvre de René Char et, en passant, des petites traductions que j'ai commencées. « Vous nous en lisez quelques-unes ?» propose Anna. Je ne comprends pas son souhait. « Comment ?»« Andari !» me répond Joseph. Vous lire mes traductions de Char en Dari ? Ils opinent sérieusement du chef, le regard pétillant. 3. Un dimanche après-midi, tu leur fais une lecture des poèmes de Char que tu as traduits dans ta langue maternelle. Transporté, ému, dans une communion tout à fait déconcertante pour toi, le couple écoute les vers qui, d'exigeant pour leur niveau de français, deviennent à leurs oreilles mystérieux en Dari. 4. Tu t'apprêtes à quitter la cuisine quand Joseph te dit « Depuis que nous avons entendu tes traductions de poèmes, nous avons très envie d'apprendre le Dari, Anna et moi. » Tu n'as jamais apprécié transmettre quelque savoir que ce soit, encore moins ta langue maternelle. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un dû à des personnes qui t'ont sauvé et auxquelles tu ne peux te soustraire. Joseph renchérit « Bien sûr, nous t'opérons. » « Ah non, surtout pas. » Nous tenons absolument à te rémunérer si tu nous accordes ton temps. 5. Ainsi débutent les séances hebdomadaires d'apprentissage du Dari. Assis l'un à côté de l'autre, tels deux étudiants, Joseph et Anna t'écoutent lire l'alphabet afghan. Puis ils répètent chaque lettre. Et séance après séance, patiemment, ils s'approchent de l'Afghanistan. À tel point qu'après quelque temps, Joseph emploie des phrases simples de Dari pour parler avec toi. 6. Ils ont beau être adorables, Kabouli a beau se sentir chez lui à la faveur de leur amabilité et de leur spontanéité, il n'empêche, quelque chose manque à ce chez-soi pour qu'il soit le chez-soi de Kabouli. 7. Qu'est-ce qu'un chez-soi ? C'est là où l'autre n'est pas. 8. Et il perçoit peu à peu, à l'aune de ses cours de Dari, un petit chemin qui pourrait, qui sait, lui permettre d'avoir un chez-soi. Un petit appartement qu'il louerait comme tout le monde, pour peu que cet enseignement particulier puisse prendre de l'ampleur. Alors, il rédige une annonce qu'il fait traduire en allemand et en anglais. « Jeune Afghan donne cours particulier de Dari » en anglais ou en français. Si intéressé, merci d'appeler au numéro de téléphone suivant 0650 737 8004. 9. L'enveloppe déposée sous ma porte par Joseph et Anna au lendemain de chaque cours, sans commune mesure avec la somme absurde que je reçois pour une traduction de livre qui aura duré 6 mois. 10. Des rues aimées, Kabouli en a des dizaines à Vienne. Mais c'est lorsqu'il se pose sur un banc de la Neubauer Gasse, dans le quartier de la Maria-Hilfer-Straße, qu'il découvre, au quatrième étage d'un immeuble banal, ce qui lui paraît formidable de douceur et de vérité, à savoir un appartement illuminé d'un jaune tamisé dans lequel il se voit entouré de livres, assis à une table posée contre la fenêtre, traduisant jour après jour un texte littéraire. 11. Il reste assis toute la soirée sur ce banc, à observer les trois vitres jaunes. 12. Une bonne nouvelle. Le cabinet de Joseph et Anna fait partie des lauréats du grand projet d'architecture pour la construction de la nouvelle Bibliothèque nationale d'Autriche. Nous fêtons avec leurs amis cette incroyable annonce lors d'une soirée mémorable. 13. Il est plus que rare que je pense à Étide. J'ai le sentiment que c'était dans une autre vie, qui relevait d'un autre siècle, dans un passé annulé. 14. Une bonne nouvelle en entraîne une mauvaise. Joseph n'a plus le temps de suivre mes cours de Dari. Le projet de la nouvelle bibliothèque nationale prend tout mon temps et le reste. Je comprends. Je travaille pour l'histoire, désormais. Anna continue les cours, en revanche. Elle est sur un autre projet, cela lui laisse du temps. 15. Alléluia ! Tu reçois le texto d'une personne intéressée par les cours particuliers de Dari. Problème, elle t'a écrit en allemand. Tu procèdes à un copier-coller du message et tu fais traduire par Google. Le message apparaît presque instantanément, traduit en français. Rentre dans ton pays, saleté. 16. La rapidité affolée avec laquelle tu as effacé le message de ton téléphone. Le cours de langue en tête-à-tête avec Anna. Il y a un plaisir singulier, émouvant, à écouter cette femme autrichienne parler le Dari, à la voir si appliquée, si studieuse, dans sa volonté certaine et perspicace d'aller au-devant d'un monde qui est aux antipodes du sien. 2. Si en rentrant du travail, Anna ne me dit pas « salam », mais « allô » ou « bonjour », je comprends qu'elle a passé une journée difficile. 3. Pour son anniversaire, Anna souhaite se faire tatouer un vers de Rilke, traduit en Dari. Elle aimerait que je lui traduise « Ich glaube an die Nacht ». Il y a de quoi être surpris et charmé à l'idée qu'une jeune femme blonde et bleue veuille marquer à jamais sur sa peau un vers de Rilke en Dari. « Beshab imandolam »« Je crois en la nuit ». 4. Un message sur son téléphone. Il fait traduire l'allemand « Bonjour ». À la suite de votre annonce, je suis intéressé pour apprendre votre langue, le Dari. Merci de me dire si vous êtes toujours disponible. Une retraitée. Il réfléchit un instant, puis écrit en réponse. Bonjour madame, je donne beaucoup de cours particuliers, mais je suis disponible. Je peux vous appeler ? Elle répond, quelques minutes plus tard. J'ai juste une condition pour les cours. Oui ? Que vous dégagiez tout de suite de mon pays. Oust dans l'avion ! 5. Il décide de supprimer l'annonce des cours particuliers. 6. Il écrit à son éditeur afghan de Berlin pour savoir s'il n'aurait pas un travail à lui proposer dans sa maison d'édition. L'idée de vivre à Berlin, aussi théorique soit-elle, est un crève-cœur. 7. L'éditeur ne répond pas. 8. Il demande à Joseph « Si jamais il t'arrivait dans tes nouvelles fonctions d'entendre parler d'une offre d'emploi qui pourrait me convenir, pourrais-tu, s'il te plaît, m'en parler ?» Tu sais, Goulam, j'y ai déjà pensé, mais à la vérité, il faudrait d'abord que tu apprennes l'allemand. C'est indispensable pour pouvoir travailler. Tu as raison, je vais peut-être m'y mettre. Il sait très bien qu'il n'en saura rien. Il a toujours été persuadé qu'apprendre une autre langue porterait atteinte à son français, que la langue nouvellement apprise vivrait en lui aux dépens du français. Il avait même, pour conforter cette intuition ancienne, échafaudé une théorie qu'il avait nommée « la monogamie linguistique de l'esprit ». Pour rien au monde, Kabouli ne voudrait que le français soit détrôné par une autre langue. Et, pour rien au monde, il ne laisserait quelqu'un prétendre que le dari est sa première langue. Cette vérité, farouchement, il la nie. 9. Joseph rentre du travail. Il embrasse Anna dans le salon, passe me serrer la main dans la cuisine où je prépare du farni, un petit dessert afghan parfumé et savoureux pour la fête de vendredi soir. Il ouvre sa sacoche et me tend quelque chose.
« C'est pour toi. »«
À quelle occasion ?»«
Comme ça. »
J'ouvre la petite boîte. C'est un porte-clés orné de mon initiale G.
« Tu pourras attacher les clés de l'appartement dessus. »
Je suis ému par sa générosité et gêné. À vrai dire, c'est autre chose que je recherche. Un autre confort. Un confort corrélé à l'indépendance. Voilà ce que je veux. 10.
Alors que je presse le pas de retour d'une promenade en un après-midi orageux, je croise des clochards qui poursuivent leur chemin en direction de la Bibliothèque nationale. J'ai beaucoup de mal à m'endormir ce soir-là. La sorcière qui m'avait frappé aux abords de la bibliothèque accapare ma pensée. Je tourne dans le lit, tétanisé à l'idée qu'elle m'ait ensorcelé.
11. Le jour de fête. Une poignée de jeunes gens chics discutent dans l'appartement, un verre à la main. Des snacks sont disposés un peu partout dans le salon. Le farni préparé par Kabouli reçoit un accueil des plus enthousiastes. Anna est au centre de l'attention. Kabouli n'en comprend la raison que lorsque Joseph apporte un gâteau surmonté de deux bougies allumées qui forment le nombre 42. Plus tard, sous le coup d'une décision abrupte, la joyeuse assemblée décide de faire une promenade nocturne. Les convives descendent. Anna rapporte en passant 2-3 bricoles dans la cuisine. Sur le palier, Joseph s'apprête à rentrer dans l'appartement pour prendre un parapluie.
« Je m'en occupe !» lui souffle Kabouli.
« Danke !» s'exclame-t-il en prenant l'escalier à la hâte. Anna revient de la cuisine.
« Allons-y » dit-elle à Kabouli.
Il l'arrête dans son élan en la prenant par l'avant-bras.
« Quel petit tour de bras elle a ?
Si fragile ! Il est surpris par la maigreur de ce bras.
Je ne savais pas que c'était ton anniversaire. »
Elle le regarde avec un mélange d'incompréhension et de crainte. Il la tire vers lui pour l'embrasser. Elle se démène après un instant d'inertie et esquive le baiser. Il la retient fort par l'avant-bras, elle se débat, parvient à s'extirper et gifle Kabouli avant de l'embrasser fougueusement. Puis elle le repousse.
« Lâche-moi !»
Elle descend l'escalier. Kabouli sort de l'appartement. Au pied de l'immeuble, la joyeuse assemblée d'amis est en train de bavarder. 12.
Oh, « J'ai oublié le parapluie, » dit Kabouli à Joseph.
« Tu sais que c'est une phrase de Nietzsche sur laquelle des philosophes ont longuement travaillé. Un livre a même été écrit sur cette phrase. »
13. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?»
14. Il ne sait pas si Anna va se présenter au cours de Dari aujourd'hui. Il en a une idée précise, mais il ne la formule pas, par pure superstition. Et voici qu'elle rentre seule à la maison, contre toute attente, avec des courses sous le bras, mais sans aucune langue pour saluer Kabouli. Dès qu'il l'aperçoit dans sa robe jaune, il a envie de découvrir la partie de son corps qui a accueilli le tatouage de Rilke en Dari.
15.
Mais il appréhende de la croiser à nouveau, après la gifle qu'il a reçue d'elle. Aussi repart-il dans sa chambre, et ce faisant, il oppose une fin de non-recevoir à la somme de ses désirs.
16.
Assis à même le sol, Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli tire son baluchon dessous le lit et le dépoussière. Il est temps pour lui de passer à autre chose avant qu'il ne dégringole totalement.
17.
Il a pris sa décision, mais sa concentration est ailleurs. Tout entière dirigée vers les infimes bruits de l'appartement. Il devine Anna dans une des chambres, ou alors dans la salle de bain, sinon dans le salon, il ne sait plus où. Et c'est à ce moment précis qu'il sursaute, car on toque à sa porte. Il se lève et ouvre. Elle est devant lui.
« Il y a quoi aujourd'hui ?»
l'interroge-t-elle.
«
Que répond Ghulam Muhammad Abdullah Hassan Kabouli? Rien. Ou un imperceptible mouvement du haut du corps qui, s'il était surinterprété, aurait été propice. Le cahier et la trousse habituelle à la main, Anna avance précautionneusement. Quand elle passe à côté de lui, ses accessoires tombent. De ses mains, elle entoure la nuque de Kabouli, leurs visages se rapprochent. En basculant sur le lit, ils font tomber sans s'en rendre compte le baluchon dépoussiéré par terre. 18. Ainsi débute une liaison qui, tout de suite, fait ressortir pour Kabouli le monde comme par phosphorescence. 19. Une pensée, une seule fois. Combien par comparaison, ou par contraste plutôt, Etide était froide, apathique et inconséquente dans ses relations, fussent-elles sociales ou intimes. 20. Le sérieux du cours de Dari s'évapore dans la légèreté des jeux de l'amour. 21. L'enveloppe d'argent hebdomadaire, elle, ne s'évapore pas. Tu en trouves une chaque semaine, le même jour, au même endroit, souvent avec les mêmes coupures. 22. Il traduit de plus en plus de poèmes, et avec une ferveur inédite. Les mots, comme ils arrivent désormais à lui avec aisance. 23. Il observe son visage guéri dans le miroir. Des rides le traversent, comme autant de chemins d'exil qui n'ont mené nulle part. 24. Puisse-t-il y avoir une aussi bonne nouvelle plus souvent? L'éditeur afghan de Berlin vient d'accepter la publication de ma traduction du recueil de Char. Le temps, doux et clair, n'est qu'invitation. J'avance dans la ville qui m'acquiesce. Je marche à quelques centimètres du sol, dans un état d'euphorie incroyable. Penser à Anna décuple mon sentiment de triomphe. J'ai l'impression d'avoir des papiers en règle, d'être invincible, comme si j'étais devenu français, autrichien ou italien. 25. Une fois, alors qu'elle est couchée, nue, dans ma chambre, Anna récite par cœur, souriante et légère, « Allégeance » en Dari. Cela me touche à un point que je n'aurais jamais pu deviner. 26. L'éditeur me demande une préface pour le recueil de poèmes de Char. Je prends un plaisir inouï à l'écrire sur plusieurs jours au Havelka. Et lorsque je la termine, je reviens à la première page et rédige en Dari ce qui me poussait dans la rédaction de ce texte, une dédicace à Anna. 27. Vous êtes dans ta chambre, dévêtue. Une clé tourne dans le verrou de la porte d'entrée. C'est Joseph. Il rentre bien plus tôt que d'ordinaire. Anna devient blanche comme neige. Tu ne l'avais jamais vue ainsi. Vous retenez votre souffle, prisonnier de la chambre. Joseph toque à ta porte. Vos membres sèchent. Il reçoit un appel téléphonique mais reste devant ta chambre. Les corps demeurent figés. 28. De l'autre côté de la porte, Joseph discute au sujet du projet de la nouvelle bibliothèque nationale. Il semblerait qu'il ait oublié d'envoyer un document. Tout en continuant de parler au téléphone, il s'éloigne de ta chambre, traverse le salon, s'arrête dans l'entrée, puis il sort de l'appartement. Aussitôt, Anna se rhabille. Son visage, fin et fragile, est maintenant sculpté par le souci et la gravité. Elle n'échange aucun mot avec toi. 29. Cela fait plus de 2 semaines qu'il n'y a pas eu de rencontre entre Anna et toi. Elle ne t'écrit plus de messages. Par contraste, Joseph demeure égal à lui-même, toujours aussi affable. Dans son regard, tu perçois une forme d'admiration à ton endroit. 30. Anna ne rentre plus seule. Parfois avec Joseph, d'autres fois après lui. 31. Tu finis par lui envoyer un message. Salam, Anna. Je fais les courses, faut-il quelque chose pour la maison? Tu ne reçois aucune réponse. 32. Puis un message. Oh, tes parents. Comment vas-tu, Ghulam chéri? Comment va Marie-France? Tu as juste envie de balancer le téléphone contre le mur. 33. Anna ne lui adresse plus la parole. 34. Pour une fois, Anna rentre seule. Kabouli sort de sa chambre et va au-devant d'elle, dans la cuisine. Elle ne veut pas parler. Il se rapproche, l'entoure de ses bras, elle le rejette. Il revient à la charge. Non ! Au moment où il plonge la tête et l'embrasse dans le cou, elle lui met un coup de poing dans le thorax. Repoussé par la douleur, Kabouli se met à suffoquer. Anna sort de la cuisine en fulminant. Il n'y a plus de place pour moi dans cet appartement. 2. Vous êtes à table tous les trois lorsque tu prends la parole. Joseph, Anna, je voulais vous remercier infiniment de votre hospitalité. La fourchette et le couteau suspendus au-dessus de l'assiette, Joseph s'arrête et t'observe sans comprendre. Il est temps pour moi de partir. Où ? S'exclame Joseph.
C'est une très bonne chose, réagit sèchement Anna.
Quoi ?
S'insurge Joseph en se tournant vers sa femme.
« Nous allons avoir de la visite dans les prochains jours, » affirme Anna.
« Ghulam doit partir. »« Pas du tout !» rétorque Joseph. « Tu restes, Ghulam !»«
Non, il part. Et dès demain. »«
Qu'est-ce qui t'arrive, Anna ?»«
C'est très simple, » proclame-t-elle. « Soit c'est lui ici, soit c'est moi. »
Joseph se lève, livide, et demande en allemand à Anna de le suivre. Tu les entends discuter dans leur langue dans le salon. Tu te demandes si elle va tout révéler à son mari. 3. Pour toi, la décision est prise. Tu enlèves du porte-clés Angers que t'avait offert Joseph le badge et les clés de l'appartement et tu les places sur la table. 4. Quand ils reviennent dans la cuisine, Joseph a le visage décomposé. D'un placard, il prend un paquet de Marlboro et fume une cigarette, lui que je n'avais jamais vu toucher au tabac. À table, la tête inclinée, la cigarette se consumant devant ses traits graves, il réfléchit. D'une main, Anna s'empare des clés qui sont sur la table. Joseph hoche la tête de droite à gauche.
« Tu veux vraiment partir ?»«
Ghulam ?» me demande Joseph. J'acquiesce de la tête. « Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. »
« Demain matin sera parfait pour le départ »,
affirme Anna. Elle me fixe du regard avec de la haine dans les yeux. 5.
Dans quelle galère me suis-je embarqué en venant ici ?
6. Au réveil, je trouve une lettre de Joseph sous la porte. Il s'excuse en français de cette fin, parle de sa honte, de sa colère et de son incompréhension envers Anna. Mais aussi de son incapacité à rester pour me dire au revoir les yeux dans les yeux. Il dit aussi combien mon courage et mon histoire d'exil l'ont marqué, combien la vie en Afghanistan que je lui ai racontée a changé sa manière de voir le monde. Et il me souhaite ses meilleurs vœux pour la suite. En pliant la feuille, je constate qu'il y en a une deuxième, rabattue, collée à elle. Quand je la décachette, je découvre 3 billets de 200 euros attachés à un trombone, accompagnés de ce mot qu'il a signé,
pour les cours de Dari. Merci, Ghulam. Joseph.
Et Ghulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli reprend son baluchon qui est toujours au coin de la pièce. Et il retrouve les reliques de sa vie d'avant, la vie du traducteur littéraire sans domicile fixe. 8. Il est temps de repartir, jeune homme. Pour toi, ce n'est que la continuation de la même route. Et pour donner le ton, une pluie fine et vive tombe sur Vienne. 9. Il avait cru, après être arrivé dans l'appartement du couple, qu'il n'y aurait plus de retour au point de départ, qu'il pourrait petit à petit trouver son propre logement et avancer dans la vie. Comment a-t-il pu se méprendre à ce point ? Comment a-t-il pu croire qu'il était possible de se départir si facilement de sa condition ? 10. Dès que tu te trouves dehors, tu as le sentiment que le monde se précipite sur toi avec une violence inattendue. Tu surréagis face à la pluie, aux véhicules sur la chaussée, tu te sens démuni devant les gens qui marchent sur les trottoirs face aux transports en commun. Si bien qu'en très peu de temps, tu es épuisé, mentalement et physiquement. 11. Retour aux nuits invivables. 12. Tu es surpris par la rapidité avec laquelle tu as retrouvé tes réflexes de sans domicile fixe, ton savoir-faire en la matière, mais aussi tes tics, tes angoisses de sans-papiers et tes habitudes. Tout
tout un habitus acquis au gré des mois passés dans la rue et remonté en toi instantanément, comme par résurgence. Lorsque l'éditeur afghan t'envoie par mail les épreuves de la traduction du recueil de Char, tu revois la dédicace que tu avais écrite à Anna. Elle est comme une fleur séchée. Elle ne renvoie à rien, pas même à des moments de bonheur passés. 14. À nouveau, la Maria Hilferstrasse. Il est juste fatigué. Fatigué des exils. Il se laisse aller au coin d'une rue, en dormant sans sac de couchage ni rien. En se réveillant, il comprend qu'on l'a transporté à Caritas, une association autrichienne d'aide aux sans-domicile fixe. 16. Parfois, les midis, s'il est dans le quartier, il va manger dans les locaux de Caritas. 17. Il s'y rend de plus en plus depuis qu'il relate son histoire à une bénévole qui travaille dans l'association, une Tunisienne chaleureuse et aimante, Sarah. Il se demande, est-ce que je vais chez Caritas pour manger ou pour raconter ma vie à Sarah ? Et à mesure qu'il lui dévoile chaque jour un pan de sa vie, il se souvient d'autres épisodes que le temps avait ensevelis. Si bien que ses après-midi sont consacrés à son carnet de galères. 18. Le plaisir vertigineux de créer, affranchi de toute exigence de fidélité. Ainsi, le traducteur littéraire écrit-il son premier texte littéraire, dont Sarah sera la première lectrice.
7. Carnet de galère de Hayat Fayez. 2e carnet, lu par Adrien Michaud, en direct du studio 114 de la Maison de la Radio et de la Musique, le 14 juin 2025. Musique originale de Lazare Bogossian. Mastering, Sébastien Bureau. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe technique, Éric Boisset et Timothée Hubert. Assistante à la réalisation, Céline Paris. Réalisation, Laurence Courtois.
Vous écoutez France Culture, Samedi Fiction. Vous pouvez retrouver le second volet de Carnet de galère d'Hayat Fayez ainsi que le premier sur l'application Radio France et franceculture.fr. Prochain rendez-vous avec la fiction demain à 20h avec Le soulier de satin de Paul Claudel dans la mise en scène d'Éric Ruff, interprété par la troupe de la Comédie Française. Dans quelques instants, ce sera le Book Club. Bonne soirée sur France Culture.
Vous écoutez France Culture.
On a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies.
Expérience Aurélie Charon.
Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
Beaucoup de prises de parole d'André Malraux sont restées célèbres, comme le discours pour Jean Moulin le jour de son entrée au Panthéon.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais cette série de salles des archives vous propose d'aller plus loin en réécoutant Malraux à toutes les grandes étapes de sa vie.
L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant.
Avec à chaque fois une question principale, que signifiait pour lui de s'engager ?
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, enchanté.
Enchanté, merci beaucoup.
C'est là où il dit, en ce cas, lui dis-je résolument, vous vous appelez Jorge Luis Borges.